Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, droit d'asile entravé, refoulement illégaux, un collectif d'ONG lance aujourd'hui une vaste opération pour faire respecter le droit des exilés, avec à la clé des manifestations dans 5 villes frontières et une première, la demande d'une commission d'enquête parlementaire. Au chapitre manifestation J-1 avant les grandes grèves annoncées demain contre la réforme des retraites, dans ce journal les inquiétudes autour de la sécurité dans les cortèges et le témoignage d'un cheminot gréviste. Dans ce journal également, des millions de dollars dépensés par les républicains américains pour défendre leur président. Et puis le témoignage en fin de journal d'une championne olympique de judo au chômage 4 ans seulement après sa médaille.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État chargé des transports.
France Inter.
Et l'on commence, Sébastien, avec cette démarche rare des ONG qui demandent une enquête parlementaire sur le non-respect des droits des migrants.
Des destructions d'abris systématiques, des détentions arbitraires, des militants associatifs interpellés pour avoir fourni seulement des chaussettes en plein hiver à des demandeurs d'asile. Les droits fondamentaux des personnes exilées ne seraient pas respectés, selon un collectif d'ONG et d'associations. On y retrouve Amnesty, la CIMAD, Médecins du Monde, Médecins sans frontières ou encore le Secours catholique. Tous les 5 lancent aujourd'hui une vaste opération dans 5 villes où les problèmes sont les plus visibles, à Briançon ou Hendaye par exemple. Mais au-delà de cette action de terrain, c'est bien les politiques qu'elles espèrent toucher en demandant une commission d'enquête parlementaire sur la situation des migrants aux frontières françaises. Une situation de plus en plus inquiétante, Sébastien Sabiron.
Originaire du Maghreb, Rachid a vécu en France sans y être régularisé. Désormais installé et marié en Italie, il tente de revenir dans le pays début novembre pour récupérer des papiers. Arrêté dans un train en provenance de Vintimille, il est conduit dans un préfabriqué de la police aux frontières près de Menton.
L'intérieur, c'était la cata. C'est comme si c'est des camions frigo. Le sol, c'est du métal. Il y a la petite cour. Elle est couverte par du grillage en plus. Il n'y a même pas un toit. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien.
À l'intérieur, une vingtaine d'hommes, afghans, africains, pas d'interprète, pas de nourriture et des tensions avec la police lorsqu'ils tentent de sortir.
Les agents, ils ont dit, vous savez quoi, on va vous laisser crever ici ce soir. Il y a des moments de violence, ils avaient des tasers. Il y a la bombe lacrymogène, il y a les insultes, il y a plein de trucs.
Exemple flagrant de détention arbitraire et d'atteinte au droit d'asile, estime Amnesty International, Lola Schulman, chargée de plaidoyer réfugiés migrants.
Même la contrôleuse générale des lieux privatifs de liberté avait admis que les personnes ne pouvaient pas être détenues plus de 4 heures. Or, ce qu'on constate, c'est que tous les jours, des personnes passent la nuit dans ces algécos. Elles n'ont pas accès à un médecin, elles n'ont pas de traducteur, elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles sont détenues avant d'être refoulées en Italie. Le lendemain matin.
Ces dernières semaines, plusieurs députés se sont vus refuser l'accès à ces préfabriqués au prétexte qu'il s'agit de lieux de mise à l'abri et non de privation de liberté, selon la définition du ministère de l'Intérieur.
Sébastien Sabiron, rassemblement prévu ce matin à 11h à Calais, Dunkerque, Briançon, Menton et Hendaye.
Il est 7h32 et c'est un autre rassemblement qui inquiète les autorités. Demain dans les rues de Paris.
La manifestation contre la réforme des retraites, plus de 300 cortèges prévus en France, mais c'est le cortège parisien qui concentre toutes les attentions. Il doit démarrer à 14h depuis les gares du Nord et de l'Est avant de se rendre place de la Nation. Des dizaines de milliers de personnes attendues et parmi les manifestants, Sophie Parmentier, les renseignements craignent à nouveau la présence de centaines de casseurs.
Les policiers du renseignement en sont quasiment certains. Demain, les cortèges syndicaux seront infiltrés à la fois par des radicaux de gauche et à la fois par des ultra-jaunes déterminés à en découdre sur le pavé, plus qu'à défiler sous des pancartes contre la réforme des retraites. Pour parer à cette présence redoutée de Black Bloc, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu hier soir avec tous les préfets de région et avec le préfet de police de Paris. Mot d'ordre, réactivité dans les interpellations. À la moindre action violente perpétrée dans les cortèges seront d'abord encadrés par les services d'ordre syndicaux, mais les policiers ont pour consigne de réagir très vite en cas de tension. Pour éviter le maximum de casse, le préfet de police de Paris a fait fermer tous les commerces qui se trouvent le long du parcours de la manifestation dans la capitale, où les forces seront déployées à pied, à moto, avec des lanceurs d'eau en appui. Gros dispositif de forces de l'ordre également à Marseille, Lyon, Toulouse ou Bordeaux, où les autorités craignent des débordements.
Sophie Parmentier, ajoutons que la moitié des forces de l'ordre disponibles devraient être disposées à Paris. 55 unités de police et de gendarmerie. Le secteur des Champs-Élysées, lui, sera totalement interdit. À noter aussi cette décision du président président de l'université de la Sorbonne de fermer la faculté de Tolbiac afin d'éviter, comme en 2018, de nouvelles occupations. Décision fondée, selon la présidence, sur, je cite, des informations crédibles sur une possible infiltration des assemblées générales par des éléments extérieurs. Parmi les manifestants qui battront le pavé dans toute la France demain, les cheminots, bien sûr, seront en tête pour défendre leur régime de retraite. Exemple avec Sylvain, conducteur de train à la SNCF, qu'a rencontré Maxime Deps.
13 ans qu'il est entré à la SNCF, agent de conduite sur le réseau parisien, Sylvain, syndiqué Sudrail, sera de cette journée du 5 bien décidé à combattre les arguments trop souvent mis en avant à son propos. Non, il ne partira pas à la retraite à 52 ans, même si les statuts comme conducteur lui en donnent le droit. Il a fait ses calculs et pour une retraite à taux plein, ce sera plutôt...
Pour moi, c'est 58 ans et demi actuellement. Voilà. Donc dire que les conducteurs de train partent à 52 ans, c'est un mensonge. La grande majorité des conducteurs de train sont obligés de travailler plus longtemps pour avoir une pension décente.
En 2018, à la SNCF, l'âge moyen de départ d'un conducteur était de 53 ans et 6 mois, 58 ans pour les autres agents. Mais si demain Sylvain sera dans la rue, dit-il, ce n'est pas forcément pour son seul cas personnel.
Moi, j'ai une partie de ma carrière derrière moi. Mes enfants, ils n'auront pas forcément de régime spécial, mais cette réforme-là va les toucher aussi. Je ne suis pas là pour sacrifier l'avenir de mes enfants en expliquant qu'il faudra qu'ils travaillent jusqu'à 65 ans.
Surtout, ils s'interrogent.
Pas sûr que les usagers aujourd'hui rêvent de voir un conducteur qui monte à 64 ans dans sa cabine de conduite et qui va les amener en vacances ou qui va les amener au travail. Pas sûr qu'ils aient la même confiance qu'actuellement.
Question de confiance ou non, à partir du 1er janvier, fin du statut oblige, les nouveaux entrants à la SNCF, tous sans exception, seront embauchés au régime général avec ouverture des droits à 62 ans.
Maxime Deps, les cheminots comme Sylvain, eux, seront très massivement en grève demain, au point que le trafic s'annonce extrêmement perturbé. Du jamais vu depuis 1995, pas plus d'un train sur 10 en circulation demain à la SNCF. En Ile-de-France, 11 lignes de métro sur 16 totalement fermées. En région, à Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Nantes, Toulouse, Grenoble ou Strasbourg, beaucoup de perturbations également, notamment sur les lignes de bus avec des dizaines de lignes interrompues. Enfin, dans les airs, moins de perturbations, mais tout de même 20% des vols intérieurs supprimés. Et puis ce petit soulagement pour les autorités à la veille de cette journée noire, la levée de la quasi-totalité des blocages autour des dépôts pétroliers dans l'ouest du pays. Hier soir, seul le dépôt de Lorient restait bloqué par des patrons du BTP qui protestent toujours contre la suppression d'un avantage fiscal sur le gasoil.
Il est 7h37 aux États-Unis, un nouveau pas franchi, Sébastien, dans la procédure de destitution de Donald Trump.
Après 2 mois d'enquête et une quinzaine d'auditions, les démocrates américains ont approuvé le rapport final du Congrès qui, selon eux, contient des preuves accablantes. Une imposture, a répondu la Maison-Blanche, qui peut aussi compter sur la mobilisation des républicains pour le défendre coûte que coûte, une organisation quasi-militaire et qui ne manque pas de moyens. À Washington, Grégory Phillips.
Depuis la fin septembre et l'ouverture de cette enquête par les démocrates, le Comité national républicain et l'équipe de campagne Trump 2020 ont dépensé plus de 10 millions de dollars en publicité pour défendre le président sur Facebook, les réseaux sociaux et à la télévision. Le groupe America First Action, qui récolte des fonds pour Trump, lance cette semaine une nouvelle campagne avec des spots qui visent personnellement 27 représentants démocrates pour inciter leurs électeurs à se détourner d'eux. The radical left will stop at nothing to impeach President Trump. Parallèlement, l'organisation Trump 2020 a monté une équipe d'une quinzaine de personnes, une war room digitale pour sur les réseaux sociaux contre-attaquer. L'ancien stratège Steve Bannon, pourtant en disgrâce à la Maison Blanche, vient d'inaugurer son podcast War Room Impeachment with Stephen K. Bannon pour défendre Donald Trump. Enfin, le Comité national républicain affirme que les collectes de fonds battent des records depuis l'ouverture de cette enquête en impeachment. Pour un don de 35 dollars, les sympathisants du président peuvent recevoir une carte de membre de son équipe de défense. Les démocrates ne sont pas en reste et le milliardaire Tom Steyer a dépensé déjà plus de 5 millions de dollars dans des spots appelant à la destitution de Trump. Au-delà de la bataille judiciaire et politique, se joue celle de l'opinion. Washington, Grégory Phillips, France 1.
Et puis aux États-Unis encore, à noter l'abandon de Kamala Harris dans la course à la primaire démocrate. Cette fois, elle voulait devenir la première femme noire à présider les États-Unis, mais elle renonce faute de moyens suffisants. On termine avec le cri d'alarme lancé hier par une judokate française, Émilie Andéol, 32 ans, championne olympique à Rio en 2016 et qui, malgré plusieurs diplômes en poche, se retrouve au chômage 4 ans seulement après avoir décroché sa médaille d'or. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle attend plus d'accompagnement des sportifs après leur fin de carrière. Fanny Lechevestrier.
Championne olympique !
Vous vous souvenez peut-être de ce moment, le 12 août 2016, au Jeux de Rio, le judo tricolore courait après les médailles quand surgit l'inattendue Émilie Andéol.
Franchement, je réalise toujours pas que j'ai fait. Je suis championne olympique.
Émilie Andéol qui espérait alors avoir assuré son avenir, mais même en ayant fait des études, rien ne s'est passé comme elle le pensait.
C'est vrai qu'on descend de... Ouais, de 10 étages, quoi. Je me suis vraiment senti seul, en fait. J'ai vraiment senti une mort lente. J'en avais entendu parler, hein. Mais en fait, c'est dur. Moi, cette situation m'a bouffé moralement, physiquement.
Et aujourd'hui, si sa situation semble enfin se décanter, elle veut continuer à parler pour les futurs champions, se battre pour la mise en place d'un réel accompagnement dans l'après-carrière.
Une carrière, c'est 15 ans. Mais après, on a 40 ans après encore à vivre professionnellement. Je remarque que maintenant, effectivement, tout le monde m'appelle. Tout le monde me demande, t'as besoin de quoi ? Et ça, par exemple, j'aurais voulu l'avoir avant. Je trouve ça quand même dingue qu'il faut en arriver là pour que les choses changent. Il ne faut pas rester que sur la performance, disant, bah, c'est bon, on a nos champions, on a nos résultats, et qu'une fois c'est fini, on les oublie, quoi.
Avec à l'horizon les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'occasion rêvée, dit-elle, pour tout remettre à plat.
Et le combat d'Émilie Andéol ne fait que débuter. Elle a été entendue par le ministère des Sports. Elle doit être reçue lundi par l'Agence nationale du sport.
Merci Sébastien Legénie.